qualifié d'extrêmement intelligente une directive européenne. Je vous assure que cela n'arrive pas sans doute. La parole est à ce premier qui l'aura demandé. Oui, monsieur, je vous en prie.
Oui, j'ai une question à ArcelorMittal. J'ai une question à l'UGAGOA qui a évoqué quatre stratégies pour réduire son exposition au risque de change. Il m'a semblé avoir vu qu'une partie des contrats signés avec la Chine seraient également payés en euros. Et vous pouvez me dire si c'était confirmé ou pas?
Non, ce n'est pas confirmé. Les Chinois payent en dollars. D'ailleurs, ils n'en manquent pas. Donc, ils préfèrent payer en dollars. Nous sommes en train de discuter avec certains clients pour savoir s'ils seraient intéressés par des facturations en euros. Il est clair qu'ils regardent ça d'un œil un peu plus intéressé qu'avant parce que l'euro est très haut. Et ils pensent qu'ils pourraient profiter de l'affaiblissement de l'euro dans les années qui viennent. Nous sommes prêts à prendre le risque parce que ça serait un changement intéressant, même s'il ne règle qu'une toute petite partie de notre problème. Et si nous avions la possibilité de facturer nos avions en euros, nous aurions une visibilité sur nos recettes à terme beaucoup plus forte que celle que nous avons actuellement. Visibilité que nous n'assurons actuellement que par des couvertures de change qui ont évidemment toutes les limites que l'on connaît. Et ça ne résoudrait pas le phénomène principal pour nous, qui est que nos coûts sont en euros et que ceux de Boeing sont majoritairement en dollars. Et ça ne peut se régler que par une diversification de nos sources d'approvisionnement. C'est clair.
Merci. Nous avons droit à 3 minutes, donc pour 2 questions. Qui sont... Oui, monsieur, voulez-vous dire à qui vous posez la question? C'est qui vous êtes et à qui vous posez la question?
Je m'appelle Romain Escure, je travaille pour Groupe Asset Management et je pose la question à l'ensemble des intervenants. Même si je vais rebondir un peu sur une remarque du sénateur Marini, qui présentait les entreprises européennes comme étant à la fois ancrées dans les territoires et pleinement présentes dans la globalisation. Je voudrais comparer une seconde du secteur financier, notamment des banques. Et sans trop faire référence à la conjoncture, vous disiez tout à l'heure dans votre introduction, M. le Président, qu'il fallait rester dans le long terme, on a un secteur ancré dans les territoires, on a un secteur dans lequel le maillage des réseaux reste évidemment très important, mais qui aujourd'hui, plus que jamais, est au cœur de la globalisation. Une question très simple, la Banque européenne existe-t-elle? Peut-elle exister un jour?
Merci pour votre question, à laquelle le sénateur Marie y répondra tout à l'heure. Mais la dernière question, c'est vous, monsieur.
Bonjour, Joël Roulet de l'École des Mines et en particulier de la chaire sur les économies émergentes, en particulier les entreprises émergentes et évidemment les capitalismes émergents au sens de Michel Albert. J'avais une seule question, mais je n'en pose qu'une, qui est adressée à Louis Gallois sur la question des partenariats. Est-ce que la possibilité, en faisant un petit peu de mécano industriel fiction, la possibilité d'un grand partenariat entre, disons par exemple, un avionneur brésilien, un conglomérat indien qui aurait à la fois de l'informatique, donc des capacités de conception, innovation importantes, qui aurait des capacités de déploiement industriel, par exemple dans l'automobile, et disons un motoriste toujours indien ou russe, est-ce que ça ne permettrait pas de voir émerger une concurrence à un horizon plus rapide que vous indiquiez?
Merci monsieur. Alors, tout d'abord, Philippe Marini, puis Louis Gallois.
J'ai le sentiment qu'il y a des banques globales en Europe, mais pour autant, y a-t-il des banques européennes? Et le concept est-il pertinent? Est-ce que le champ européen est un champ pertinent pour apprécier la stratégie d'une grande banque universelle, d'une grande banque globale? Je n'en sais rien, et vous ayant exprimé ce scepticisme, j'ai un peu orienté la réponse. Chacun sait que, et surtout ici, les marchés bancaires ont été à l'origine, et cette origine est encore très proche, les plus segmentés de tous, les plus réglementés de tous. Et Il suffit de se promener en Europe, de l'Italie à la Finlande, pour voir que l'on circule dans des mondes nationaux vraiment très différents. L'omnibancarisation en Finlande avec des institutions extrêmement puissantes, pour une part, si je ne me trompe, encore à base coopérative, permet de faire disparaître le numéraire et de tout payer par carte, ce qui est bien l'expression d'une omniprésence, omnipotence bancaire totale, voire totalitaire. En Italie, la fonction de gouverneur à vie de la Banque centrale n'a disparu que très récemment et dans